Et qu'est-ce que tu bois ?
Ben, je bois une bière.
Mais comment ça, il est 14h30 ?
Bah ouais, mais c'est une bière locale, donc c'est bon.
Une bière locale ?
Bah ouais, c'est une bière qu'on fait ici, à la raffinerie.
Radio Mycélium ! La radio qui nous connecte.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 1er mars, il est 14h31. C'est du direct, on est situé sur l'île de la Réunion à Saint-Paul. On diffuse depuis les locaux de la raffinerie et la friche éco-culturelle de Savannah. Bienvenue à vous sur Radio Mycélium. Et oui, ça y est, on peut le dire maintenant qu'on a un super jingle fait par Antoine alias Cobalt. Alors après de nombreux jours de recherche, on s'est mis d'accord sur ce nom, à la fois évocateur et mystique. Alors pour celles et ceux qui auraient un doute, c'est quoi déjà le mycélium ?
Ah.
Ah. Alors, c'est la partie souterraine des champignons. Il est composé de plein de filaments, ça lui permet d'être en symbiose avec son environnement, avec les plantes, et il aide carrément les arbres à coopérer entre eux. Le mycélium, c'est donc une sorte de grand réseau, il relie les plantes et les arbres. Ça t'inspire, hein ?
Ouais.
Ici à la raffinerie, en tout cas, cette nouvelle radio, elle va nous servir de réseau. Elle va faire le lien entre tous les différents pôles, elle va nous relier avec nos adhérents, avec aussi tous les curieux et les curieuses qui en ont l'envie. Et puis évidemment, aussi avec l'ensemble des tiers-lieux, qu'ils soient de la Réunion ou d'ailleurs. L'équipe d'aujourd'hui est encore différente des autres fois.
Non, t'as dit différente.
différente des autres fois. Et donc cette jolie voix suave que vous entendez, c'est mon acolyte.
C'est moi, c'est le champignon.
Guillaume.
Oui.
Qui s'improvise technicien aujourd'hui, puisque notre cher technicien officiel Jonas, il nous abandonne pendant 2 mois. Donc, une petite pensée pour lui, une dédicace. Et puis voilà, donc Guillaume à la technique aujourd'hui. Et puis Manon, je suis ravie de t'accueillir pour la toute première fois avec nous. Salut. Tu vas nous présenter l'agenda du mois de mars de la raffinerie, parce que ça y est, après quelques semaines de pause, on reprend les événements. Et on te retrouve juste après l'interview d'aujourd'hui.
À toutes.
Et du coup, moi-même, France, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission Micromonde. Elle est consacrée aux activités de la raffinerie. Les fois d'avant, c'était micro-forêt et serre aquaponique. Et aujourd'hui, c'est micro-brasserie. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Thierry et Christophe.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour France, bonjour Guillaume, bonjour les raffineurs.
Bonjour.
Ils sont géniaux, ces petits.
Ouais, il y a une foule qui a applaudi.
Il y a une foule en délire qui assiste à l'émission. Alors Thierry, toi, tu es le bienveillant titulaire du pôle microbrasserie. Tu gères aussi la partie administrative, les stocks, les commandes fournisseurs, le budget, le suivi économique, etc. etc.
C'est énorme, oui.
C'est énorme. Et tu travailles en étroite collaboration avec Christophe. Christophe, le bienveillant adjoint.
C'est ça.
Tu aides Thierry à brasser et vous faites l'élaboration des recettes ensemble. On verra du coup un peu plus tard comment ça se passe. Mais à la base, c'est toi qui es Thierry qui est à l'initiative de ce projet. Toi, tu es un grand passionné de bière. Tu as toujours aimé les tester, les comparer et tu étais même un collectionneur d'étiquettes. Tu as carrément des classeurs remplis chez toi.
Ah ouais, carrément.
Ouais. Comment ouais, t'es venue l'idée alors de, par la suite de créer une micro-brasserie ici à la raffinerie ?
Alors, l'origine, il paraît, hein, mais je sais pas, hein, j'étais trop petit, hein, que je suis tombé dans un tonneau. Mais ça, bon, allez, ça fait partie de la légende. Non, plus sérieusement, j'ai toujours associé ado. Je suis pas un grand buveur de bière, déjà pour commencer, faut le dire. Par contre, j'ai toujours associé la bière à des valeurs que je trouvais plutôt sympas, la convivialité, voilà, les copains, un petit peu la fête, bien sûr, etc. Et c'est vrai que les années passent, etc. Et puis mais naturellement, hein, j'avais pas forcément une idée en tête de devenir un jour brasseur ou quoi ou qu'est-ce. De découvrir des styles en allant à droite, à gauche, en testant, en découvrant. les différentes bières qui étaient proposées dans les estaminets. Voilà, ou les pubs.
Les estaminets.
Oui, oh, parisienne, toi. Dans les cafés, quoi, en fait, voilà. Ouais.
Et toi, après, Christophe, tu t'es greffé au projet.
Oui, c'est ça, il y a un an et demi à peu près.
Parce que la microbrasserie à la raffinerie, ça fait combien ?
On va dire...
Le gars, il fume en même temps, il me fait un mime et tout.
On a commencé à brasser au mois de septembre 2021.
C'est bien, c'est qu'il est à l'Est, Titi.
2021, donc c'est pas très vieux, hein. On est à notre 8e brassin, hein, donc c'est pas non plus... voilà, on n'est pas encore opérationnel 100%. Et le projet s'inscrivait déjà dans l'idée de ce tiers-lieu. La microbrasserie existait avant même mon arrivée. Elle était déjà... voilà, il y avait déjà ce projet parmi tous les autres. Et bah écoute, moi, quand je suis arrivé et que je suis tombé là-dedans, j'ai dit « Waouh, bah, il y a peut-être un petit affaire pour Bibi, là. C'est quelque chose qui me passionne. »
Est-ce qu'il y a un affaire pour Bibi ?
Bah, c'est ça, c'est ça. Et bah, j'ai dit « Ok, allez, vamos, on se relève les manches. On n'y connaît pas grand-chose. Je ne suis pas du tout brasseur, moi, de formation. » Mais je suis complètement autodidacte, donc beaucoup d'internet, beaucoup de balades là, sur les différents blogs, sites internet, etc. pour avoir quand même une petite culture bière. Et les premières réflexions, effectivement, il y a quasiment 2 ans et demi, presque 3 ans même maintenant, sur qu'est-ce qu'on peut faire ici à la raffinerie, un modèle, quoi, voilà. Est-ce qu'on fait un truc, on fait des milliers de litres, on fait des dizaines de litres. Bah, tout ça, ça a été des réflexions sur combien on compte avoir de gens, qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Donc pour l'instant, ce sont des hypothèses qui ne sont pas complètement folles, mais bon, qu'il faut réadapter régulièrement, puisque tout dépend de l'activité même de la raffinerie, puisqu'on produit, nous, pour la buvette de la raffinerie. Donc forcément, avec les événements qui s'y collent.
Alors, en termes de rendement, quand on parle de microbrasserie, ça représente 100 hectolitres par an maximum, histoire de donner une idée. Et à la base, quand on parlait de microbrasserie... Non, c'est pas ça ?
Non.
Ça, c'est
non,
les sources Wikipédia.
Alors, non, un hectolitre, c'est 100 litres de bière. Dans nos prévisionnels, encore une fois, c'est 800 à 1000 litres par mois.
Ah, donc on n'est pas une microbrasserie, en fait.
Si,
on est au-dessus.
Si, on est considéré
une microbrasserie. Alors, modifiez Wikipédia, les gars.
Christophe, c'est jusqu'à combien d'hectolitres, la microbrasserie ? C'est 100 000, je crois.
Je ne sais plus si c'est 20 000 ou 100 000, mais c'est des chiffres énormes.
Mais c'est énorme, c'est énorme. Donc on est considéré microbrasserie.
C'est peut-être moi qui ai foiré mon...
Ouais, t'as pas...
J'ai foiré ma petite recherche.
Non, c'est pas grave. Non, mais je crois que c'est jusqu'à 100 000 hectolitres. Autant dire qu'aujourd'hui, nous, on va faire donc 1000 litres par mois. Si on en fait si on fait ces quantités par an, tu fais x10, x12, on est à 10 000 litres.
10 000 voilà, litres, 100, on est... 120 hectos.
120 hectos, quoi. Donc, mais bon... C'est ce qu'on veut faire, hein, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on peut faire. On pourra peut-être faire un petit peu plus dans l'avenir, mais voilà, on est sur des bases. On n'a pas non plus la volonté aujourd'hui de produire pour vendre à l'extérieur ou quoi ou qu'est-ce. Peut-être un jour, j'en sais rien, hein, on verra bien. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement produire une bière artisanale locale, avec malheureusement encore des ingrédients qu'on va être obligé d'importer, puisque tout ne pousse pas ici à La Réunion. Mais qu'elle soit une bière honnête, pas trop alcoolisée, qui déçoive et puis qui plaise au plus grand nombre de nos adhérents, bien sûr.
Alors, cette fameuse bière de la raffinerie, c'est une ale, A-L-E. On l'a appelée d'ailleurs la Rafale, petit jeu de mots, raffinerie, ale. Et du coup, pour nos auditeurs et auditrices qui mélangent un petit peu les différentes catégories, donc les ale, ça fait partie de la même famille que les IPA.
On peut le dire.
C'est les bières de haute fermentation.
Alors, pour ne pas me tromper, j'ai ressorti la définition exacte de l'ale. Qu'est-ce que l'ale ? En fait, c'est un terme d'origine norvégienne, hein, il faut le savoir, très important. Et ça désigne effectivement les bières de fermentation haute, dont font partie les IPA, dont font partie les bières qu'ici nous faisons. Hein, donc, c'est une bière faite à partir de malt pale ale. Donc les bières de fermentation haute, voilà. Et on distingue effectivement 3 grands types de fermentation, la fermentation haute, la fermentation basse.
Donc ça c'est
et
les bières blondes.
Spontanées. Mais là Christophe va pouvoir
ça,
vous
c'est
éclairer.
C'est les bières blondes, la fermentation basse.
Non, ça n'a rien à voir. Ça va dépendre surtout du type de levure que tu utilises. Après, ça va influer sur le type de bière que tu vas faire, mais peu importe le type de bière, tu peux, notamment les blondes, tu peux les avoir en fermentation haute ou basse.
D'accord.
Ça existe.
Et la ambrée, alors, elle est où ?
L'ambrée...
Pareil, rien à voir avec le type de fermentation.
Non, l'ambrée, on va plutôt avoir des variations à cause du malt. Avec du malt qui va être plus ou moins torréfié pour donner un goût un peu plus caramel et une couleur un petit peu plus prononcée.
Bon, alors, si on rentre dans le concret, comment est-ce qu'on fabrique de la bière ? Thierry, tu m'as envoyé un document avec les étapes à suivre. Tu compares ça au début à une infusion de thé. Et tu racontes qu'il faut 4 ingrédients principaux. Est-ce que vous pouvez nous dire donc les grandes lignes, mais vraiment les grandes,
oui,
sans rentrer dans trop les détails pour les gens qui se disent mais comment est-ce qu'on fabrique une bière ?
Tout à fait. Donc on a essentiellement besoin, bien sûr, d'un matériel. Hein. Donc ça peut être un matériel aujourd'hui des kits qu'on peut trouver dans le commerce pour démarrer dans sa cuisine tranquillement hein, sur des 5 litres, 10 litres, 20 litres, etc. Ou alors nous, on a un matériel qui est un petit peu plus pédagogique, où on retrouve un banc, en fait. Hein, c'est un petit peu l'esprit aussi, puisque on va faire de la bière, mais on a aussi dans l'esprit de pouvoir animer comme ça. Alors, moi, je ne parlerai pas de formation, parce qu'on n'est pas, voilà, on n'a pas non plus les études, etc., mais d'initiation, au moins pour comprendre un petit peu ce process. Donc, nous, on est ici à la Raffinerie sur un banc, donc, avec des cuves, où toutes les étapes sont identifiés en fait. Hein, on va pouvoir vraiment les travailler de manière indépendante. Alors pour répondre à ta question, donc les ingrédients nécessaires pour que ton produit, ton liquide alcoolisé s'appelle bière, eh bien c'est de l'eau. Donc une eau quand même de bonne qualité, on va dire. Hein, donc on va pouvoir aussi la contrôler, hein, le pH, les différents sels qui la composent, etc. Aujourd'hui on n'en est pas là. On a une eau qui est relativement correcte, qui nous permet quand même de sortir une bière qui reste bonne à boire. Donc l'eau, très important. Donc on en a parlé là, du malt. Alors le malt, ce sont des céréales qu'on a maltées. Hein, donc il y a tout un processus. Hein, le maltage est un processus que nous ne faisons pas ici. C'est un processus aujourd'hui industriel, hein, donc avec des machines qui vont tremper le grain, qui vont le réchauffer, qui vont, etc., le faire germer. Enfin, il y a tout un process. Et donc ces céréales, principalement celles qu'on va utiliser, parce que c'est aussi la plus facile pour les brasseurs, c'est l'orge. Voilà, donc l'orge, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à un épi de blé. D'accord, c'est quelque chose d'un petit peu plus épais qu'un épi de blé. Il y a peut-être un petit peu moins de grains sur l'épi. Mais par contre, ce qui est génial, et ça Christophe, je pense qu'il va l'expliquer mieux que moi, c'est qu'avec cette orge et ce qui le compose, on va pouvoir extraire, en fait, hein, d'où la comparaison avec le thé, hein, par infusion, en fait, hein, tremper ce grain dans de l'eau chaude et en tirer des sucres. Voilà. Pour les deux autres ingrédients, je laisse Christophe.
Je rebondis déjà sur effectivement cette phase de trempage qu'on appelle d'empâtage, où on va remuer un petit peu ces grains dans l'eau, ce qui va permettre d'en extraire tout l'amidon. L'amidon, grâce aux enzymes présentes dans le grain, vont casser ces grosses molécules d'amidon pour en tirer du maltose, qui sont deux molécules de glucose associées. Et par la suite, ce sucre sera transformé dans les étapes suivantes. Parmi les ingrédients qui vont être nécessaires encore, donc on a vu l'eau et le malt, il va nous manquer le houblon qu'on va ajouter dans la phase d'ébullition, qui va suivre celle d'empâtage. Et ensuite, les levures qu'on ajoutera dans les fermenteurs, une fois le mou refroidi.
Et alors, combien de temps il vous faut pour faire une session de... Comment on appelle ça d'abord ?
Oui, une session de brassage.
Session de brassage.
Hein, un brassin. Oui.
Combien de temps il vous faut ?
Moi, je dirais entre 4 et 5 heures. Hein. Aujourd'hui, si on compte un petit peu toutes les étapes, lavage, pré-lavage, etc., pour une centaine de litres, à peu près 110 litres à peu près. On a des petites cuves, hein, elles font 150 litres, donc on ne va pas les remplir à ras-bord. Mais elles vont nous permettre quand même de produire entre 110-120 litres, quoi, voilà, à peu près, par brassin. Et là, comme on a aussi des cuves où on peut stocker un petit peu plus, on a des cuves, des fermenteurs en fait de 300 litres, eh bien, on va enchaîner deux petits brassins, donc un le matin, un l'après-midi, pour avoir 120 litres plus 120 litres, 240 litres dans un fermenteur de 300 litres. Voilà. Donc c'est à peu près le temps qu'on met en moyenne, quand il pleut pas.
Et à la raffinerie, rien ne se perd, tout se transforme. Une fois le brassage fini, il reste des résidus des céréales qu'on appelle des drèches. Et c'est souvent utilisé pour l'alimentation animale. Et vous, vous aviez fait des biscuits apéro avec.
Oui, il y a donc Antoine, notre cuistot, qui a essayé de faire des crackers et des graissins avec ça. On a Céline qui a fait une tentative de pain aussi, mais qui ne s'est pas avérée très concluante parce que notre farine est quand même très grossière. On a les écorces des grains qui sont toujours présentes. Donc pour le pain, ça ne fonctionne pas à moins de remixer ces drèches. Vu qu'on n'a pas encore de poule à La Réunion, tout ce qui nous reste...
La Réunion.
Pardon, à la raffinerie.
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Au moins, il y en a un qui suit, c'est bien.
Ah ben merci.
On n'a pas encore de poule à la raffinerie. Donc tout ce qui nous reste en drèche...
On en aura.
Oui, il y en aura. Il y a une poule qui va être créée bientôt. Pour,
une poule P-O-L.
C'est ça, une poule, un poule poule.
Un poule poule.
C'est ça. Et on donne toutes nos drèches, tout ce qui nous reste dans le méthaniseur.
Le méthaniseur.
Une prochaine émission.
C'est ça, on a un méthaniseur qui retransforme les déchets organiques en méthane, donc qui nous permet de faire de la cuisson dessus après. Mm-hmm. Mais ceci est une autre histoire.
Eh oui, ça sera un futur podcast.
On invitera Marie, la spécialiste du méthaniseur.
Alors, si vous me le permettez,
si
parce
je
que.
Peux me permettre.
Si
vous.
Oui, on va, je sais pas, on va se réunir,
on va
décider.
Ok,
c'est bon.
C'est juste pour rebondir par rapport au méthaniseur, parce que ce qu'on n'a pas dit un petit peu en introduction presque, c'est que microbrasserie, c'est sympa, on fait sa bière, etc. Mais on s'était fixé quand même un petit cahier des charges, à savoir. Il y a un rêve quand même à la base, c'est de pouvoir faire une bière, mais vraiment 100% pays. Hein, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui malheureusement pas d'autre solution que d'importer les céréales, l'orge ne poussant pas encore ou de manière très 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 vraiment sporadique, on va dire, sur le caillou. Les levures, malheureusement, ce sont des laboratoires qui les produisent. Et le houblon, c'est encore il y a des essais. On a des brasseurs ici, on peut les citer, parce que je trouve l'initiative plutôt très intéressante, les Dallons. Moi, je me suis rapproché d'eux, malheureusement, je suis arrivé un peu tard. ils offraient des pieds de houblon à différentes personnes qui étaient intéressées un petit peu par cette culture pour la planter un petit peu partout sur l'île et puis avoir un suivi, savoir si ça poussait ou ça poussait pas. Et donc ça, très 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 belle initiative, parce que moi j'ai un doux rêve, c'est vraiment de produire quelque chose 100% pays, quoi, qu'on soit pas obligé de faire venir des tonnes et tonnes de céréales d'Europe ou je ne sais où. Donc ça, ça faisait partie vraiment, on va dire peut-être d'un rêve, mais en tout cas du cahier des charges. Après, techniquement, la brasserie, on la veut la moins énergivore possible. D'accord. Donc, vous viendrez faire des petites initiations, vous verrez un petit peu le matériel, comment on l'utilise, etc. Ce sont des cuves qu'on chauffe avec du gaz. D'accord. Ça aurait pu être électrique. Bon, pas terrible. Le gaz, pas terrible non plus. On vient de parler du méthaniseur. C'est vrai qu'on a cette possibilité demain, en changeant simplement les injecteurs des brûleurs, de pouvoir utiliser ce gaz naturel qu'on fabrique ici localement. Et franchement, ça pourrait être génial. Pareil pour le chauffage de l'eau, parce qu'on va chauffer de l'eau dans tout le process, on va chauffer de l'eau à 80 degrés, etc. Donc là, c'est techniquement équipé maintenant d'un chauffe-eau solaire, chose qu'on n'avait pas avant, donc il fallait faire chauffer les cuves au gaz, donc consommation, etc., etc. Aujourd'hui, l'eau solaire, c'est un petit investissement, bien sûr, mais combien rentable à moyen et long terme, oui, tout à fait. Et dernier point, c'est l'eau aussi, c'est toujours on parlait qu'il y avait beaucoup d'eau dans la bière là, tout à l'heure. Il faut savoir que pour faire un litre de bière, c'est en équivalent flotte, c'est quasiment 6 à 7 litres d'eau pour faire un litre de bière. Alors, il y a l'eau qui rentre dans la composition de la bière, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a une grosse partie nettoyage, il y a une grosse partie refroidissement. Là, on rentre un peu plus dans la technique. Et cette partie refroidissement, La bière passe très chaude d'un côté, l'eau froide de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait de cette eau qui s'est réchauffée ? C'est l'eau du réseau qui va se réchauffer au contact indirect de la bière. Hein, on passe dans un échangeur. Et cette eau, elle sort à 45, 50 degrés, peut-être un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc aujourd'hui, on sait qu'on a un jardin là, qui se prépare, un potager, etc. On a une cuve de 1000 litres, d'un mètre cube, donc qui nous sert à la stocker. Voilà. En attendant de pouvoir la réutiliser. Donc voilà, rester aussi, tu vois, dans une technique. Mais
pour l'instant, juste aller stocker l'eau.
Pour l'instant, ouais. Et puis, malheureusement, pas encore utilisée, mais à moyen terme, elle le sera.
Pourquoi on ne peut pas l'utiliser ?
Elle sert un petit peu à refroidir, et puis après, c'est tout le raccordement pour les futurs bacs, les bacs autonomes.
Oui, c'est juste une question de raccordement.
Ça même.
Elle pourrait être... Ok. Voilà. Et alors, concernant les recettes, vous les créez tous les deux. Comment ça se passe ? Comment vous savez quels sont les bons mélanges de saveurs ? Est-ce que l'improvisation a sa place ? Ou c'est mieux de ne pas trop sortir des sentiers battus pour produire de la bière ?
Alors déjà, sur la première recette qu'on a travaillée, on était parti sur des produits les plus simples possibles, donc sur une smash, c'est-à-dire simple malt, simple houblon. On utilise le même houblon pour la partie amertume et la partie aromatique. Là, sur les nouvelles commandes de matériel qu'on prévoit là dans les prochains jours, on se permet de diversifier nos produits et ainsi de probablement diversifier nos goûts. En tout cas, c'est l'objectif. On va pouvoir sortir un petit peu de notre schéma de recette qu'on fait depuis le mois de septembre pour proposer une bière différente chaque semaine ou chaque brassin en fonction de la consommation et voir à terme si les tireuses nous le permettent de proposer deux bières différentes à la buvette.
Voilà, c'est bien. une petite blonde qui désoiffe, une petite IPA. Et donc là, on travaille avec Christophe là, sur l'élaboration de la recette de l'IPA, d'accord, une vraie IPA, et très certainement une petite ambrée. Voilà, pour la suite. Bientôt.
Alors, et moi, je reviens là sur la bière 100% locale qui était dans le cahier des charges du départ. Et là, il manque quoi concrètement pour arriver à ça ?
Ah, une belle question, ça aussi, ça. Qu'est-ce qui manque
Le plus, c'est le malt.
Ben voilà, c'est déjà. Alors, c'est bien qu'on ait les céréales, tu vois, si on arrive à faire pousser. Et pourquoi pas ? Moi, j'ai appris encore il n'y a pas longtemps que La Réunion était le grenier à grains à un moment de l'océan Indien, il y a environ 150 ans, 200 ans en arrière. On faisait pousser du blé, hein. Il y en a encore quelques petits carreaux là, à droite à gauche. La canne est arrivée, hein, d'accord, ok. Tout a été dégagé, le maïs, tout ça. On pourrait faire de la bière au maïs, hein, d'ailleurs.
Et aujourd'hui, on en trouve, si on veut, on en trouverait suffisamment ou
non.
Pas ?
Non, je crois qu'il n'y a pas, entre guillemets, de débouché commercial. Alors, à part le petit carreau au fond du jardin pour faire son pain, mais bon. Et puis, au-delà même, j'ai envie de dire, du simple fait de faire pousser ces céréales, il y a tout le process de maltage qui pose aussi question. Sans rentrer trop dans la technique, mais il y a toute cette préparation du grain. Donc, il nous est livré aujourd'hui en sac. Hein, nous, on commande des sacs de 25 kilos qui sont, entre guillemets, prêts à être utilisés. Quoi. D'accord ? Donc, on sent bien que, de toute manière, il y aura techniquement certainement des difficultés. Quoi. Mais ce n'est pas insurmontable.
Ok. Donc, il faudrait faire pousser déjà plus de blé et pouvoir le malter.
De blé, d'orge.
D'orge
surtout. Hein, mais bon, on a aussi... Bon, on est dans une dynamique, hein. Le brassage amateur aujourd'hui intéresse beaucoup de gens, on le voit bien, on a plein de copains brasseurs là, soit chez eux, soit voilà, qui commencent un petit peu à...
On peut les citer, hein.
Oh, y en a pas mal, bon, pour ceux qui sont venus, bon, les autres on les attend, ils viendront aussi certainement, on les invitera forcément. Mais on a Timous qui est passé nous voir, on a les brasseurs des 3B qui sont venus nous voir, on a Arthur là à Belmen, hein, qui est un petit peu notre papa, notre parrain, puisqu'il a été sur le premier brassin pour nous un petit peu nous aider, nous aiguiller, etc. Donc là, dédicace Arthur, hein, si tu m'entends, merci encore, hein, et puis merci pour la suite, certainement qu'on fera appel à toi. Et qui c'est qu'on a qui est passé là d'autres brasseurs amateurs dont je me rappelle plus forcément les prénoms etc mais qui se reconnaîtront et qui seront forcément les bienvenus voilà et on causera un petit peu bière c'est cool. Il y a y en a d'autres là qui m'échappent, Christophe, là, peut-être.
Peut-être Pierre Picaro.
Bah peut-être, oui, quand même. Excuse Pierre, excuse. Bah oui, quand même, parce que quand on... Ouh, Pierre. Oui, mon Pierrot. Mon gosse, mon frangin, mon poteau. Mais bien sûr, parce que Pierre bah, lui il est là quand on a besoin, simplement pour nos événements. On n'est pas en capacité de produire non plus dans des proportions... importante aujourd'hui, donc évidemment on fait le relais avec nos copains, quoi, bien sûr. Voilà, bien sûr, Pierre, excuse. C'est bon, là je me suis excusé, hein, je crois.
Ouais, si oui, t'en as oublié un, tu vas te faire des ennemis. Hein.
Excusez-moi pour les autres que j'aurais oublié.
Tu pourras les citer à la fin, ça va te revenir et tu diras au fait.
Ouais.
Alors, côté budget, vous êtes autofinancé, il n'y a pas eu de subvention pour ce pôle-là. Vous avez fait un crowdfunding, c'est un appel à financement participatif.
Tout à fait.
Alors du coup, dans l'encadré sur le site internet, c'est écrit que la somme à atteindre, ce serait 17 000 euros.
Oui.
Mais en fait, juste en dessous, c'est écrit 17 614.
Oui, alors parce que ça, il s'agit en fait d'une troisième levée de fonds. En fait, la levée de fonds initiale, hein, elle date, elle est bien antérieure à cette levée-là qui apparaît. Là, c'est la dernière hein, qu'on a faite. La première nous a permis effectivement et très rapidement, et encore merci aux contributeurs, hein, ils sont une trentaine aujourd'hui à avoir abondé en fait vraiment financièrement au projet. Après ces 30 presque partenaires, hein, c'est un peu leur microbrasserie à eux aussi, ont abondé à hauteur de 500, 1000, 2000 euros hein, quand même pour ceux qui ont mis le plus. Et bah oui, on n'a pas eu de subvention quoi, pour faire une microbrasserie. Donc ça a été aussi un moyen un petit peu de mettre un peu les premiers sous. Hein. Donc très rapidement, on a pu récupérer 12 ou 14 000 euros. Hein,
eux, ils touchent un pourcentage. C'est quoi l'intérêt pour eux?
Voilà, bon, un peu comme la cagnotte Litchi. Hein, c'est-à-dire qu'on a voulu faire quelque chose qui est aussi un petit peu dans l'esprit de la raffinerie. C'est-à-dire par rapport au montant proposé. C'est-à-dire, par exemple, t'as 50 balles, 100 balles, t'as envie de participer. Là, on va le faire sous forme de don. Hein, c'est un don, c'est-à-dire que tu participes au projet. La contrepartie, c'est que par tranche de 10 euros jusqu'à 200 euros, bah, c'est là, tu donnes 200 euros, par exemple, pour la somme la plus importante. Et par tranche de 10 euros, tu gagnes une bière. Donc, on va te créditer sur ta carte. Donc, 200 balles, eh ben, c'est 20 bières. Après, pour ce qui est du don, on s'arrête là. Dès qu'on passe la tranche 500, 1000, 2000 euros, là on a des contreparties aussi intéressantes, puisque pour 500 euros, bon, tu gagnes toujours tes 20 bières, d'accord, et tu as une demi-journée d'initiation avec nous là sur le brassin, d'accord. 1000, tu cumules donc tout ça, et on rajoute un fût de 20 litres de bière, un fût keg là que l'on a, enfin ça fait 18 litres hein, précisément, 18, 18, 19 litres. Et pour ceux qui vont jusqu'à la tranche de 2000, nous allons fabriquer des micro-tireuses. Et en fait, moi, je trouvais ça plutôt marrant, c'est que celui qui va mettre effectivement le maximum, il va pouvoir donc y goûter déjà avec ses 20 bières, il va pouvoir apprendre à la faire, il va pouvoir en avoir un petit stock et puis surtout avoir une petite tireuse qui va pouvoir, ce sera une micro-tireuse autonome, hein, donc il va pouvoir emmener à la plage, dans les hauts de Mafate, où il veut, pour boire sa bière. Voilà, qui se trimballe son bidon de 20 litres hein, quand même. Hein. Ça va pas être simple.
Donc c'est peut-être des futurs brasseurs. Les personnes qui ont beaucoup investi?
Pas forcément. Je rajouterais simplement quelque chose de très très important, c'est que je vais parler de dons à hauteur de 10 à 200 euros, et de 500, 1000 et 2000, c'est un prêt. C'est-à-dire que
c'est une avance.
Tu gagnes en fait toutes tes contreparties, si tu veux, mais à la fin, on te rembourse tes 500, tes 1000 ou tes 2000 euros. Donc en fait, tu me les prêtes simplement. Parce qu'aujourd'hui, là, cette levée de fonds, elle était à hauteur de 17 000 euros. Mais en fait, le projet global, je tiens à disposition d'ailleurs le budget. D'ailleurs, tous les contributeurs l'ont eu, ce budget. Hein, donc, il doit être réactualisé parce qu'on a de la technique qui est rentrée. Hein, je pense au chauffe-eau solaire qui n'était pas forcément prévu initialement. Donc, ce budget, bah, il évolue quoi, et pas forcément à la baisse, forcément. Hein, puisqu'on s'équipe et puis qu'on veut du matériel quand même un peu plus efficace à chaque fois. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 36 000 euros. Hein, on a un conteneur réfrigéré, une chambre froide, un frigoriste qui est venu faire les installations, le banc hein, qu'il a fallu faire venir, les 700-800 kilos de céréales, etc., etc., les frettes, le fret, etc. Donc tout ça, on arrive à ces montants-là. Et ça, donc la première levée de fonds nous a permis de gagner entre guillemets 12 à 14 000 euros, j'ai plus le chiffre en tête. La seconde a été un peu moins importante, c'était dans les 7 8 000 quand même. Et là, la dernière qui nous permettrait effectivement de compléter la totalité du budget. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas non plus, on n'a pas pu financer en fait, si tu veux, le projet, puisqu'aujourd'hui la microbrasserie fonctionne, mais il a fallu faire appel aux fonds propres de l'association, voilà, pour compléter. Et comme ce n'est pas le but de l'association non plus d'investir dans une microbrasserie, hein, l'association elle est là pour faire de l'associatif, et voilà. Donc là, l'association nous a prêté. Donc il faudra, au même titre qu'un contributeur, la rembourser. Voilà.
D'accord.
Je ne sais pas si j'ai été clair. Je crois que j'ai perdu tout le monde là.
Non.
Non, ça va ?
Oh, moi j'ai une question, est-ce qu'elle est bonne cette bière ?
Moi, j'ai mon avis personnel.
Ah.
Le plus simple, hein, c'est de... On est quoi là ? On est mardi, mercredi soir. On a une petite soirée, là, apéro, mercredi soir, avec une petite animation. C'est de venir la tester.
Et vous la trouvez bonne ?
Honnête.
Non.
Perso, honnête.
Non, si, elle est pas mal. Un petit goût houblonné que j'aime bien, ouais.
Mm. D'accord, un goût houblonné.
Ouais. C'est un petit peu herbacé, mais bien rafraîchissant.
Tous les mercredis, maintenant, on peut revenir ici pour la goûter. Et ça va être même aussi deux vendredis par mois, normalement, où on commence à ouvrir les soirs. Mm. Donc, on peut venir goûter et on peut même aussi acheter des bouteilles aussi, non ?
Alors
c'est en développement.
Voilà, c'est un projet qu'on a testé. Hein. Aujourd'hui, on est en recherche de bouteilles donc en verre de 75 centilitres avec une fermeture bouchon mécanique. Donc ça, c'est des choses qu'on peut déposer ici à la buvette directement. Hein. Donc on les récupère, ces bouteilles. Donc ensuite, il y a un petit travail de nettoyage, désinfection. Et bien sûr d'embouteillage, donc tout ça c'est un petit peu plus de boulot que le brassage à proprement parler, donc s'organiser hein, pour essayer d'avoir à disposition, on n'aura pas des quantités phénoménales, mais la possibilité, oui effectivement, d'avoir à disposition peut-être une petite bouteille ou deux, comme ça de temps en temps. Ouais. Hmm ?
D'ici quelques temps quoi.
Ouais.
En tout cas, la fabrication, la dégustation et la culture de la bière, c'est tout un art et ça porte un nom, la zytologie. Zytos, bière en grec ancien. On parle aussi plus simplement de biérologie. En fait, c'est comme l'œnologue pour le vin, sauf que l'œnologue, il doit prendre des cours alors que le zytologue, il n'y a pas vraiment de formation officielle. Il y a quand même des structures qui proposent des formations qualifiantes et des accompagnements sur mesure. J'ai vu qu'il y avait ça en métropole. Est-ce qu'il y a ça à La Réunion ?
Christophe ?
Pas à ma connaissance.
Alors, pas à ma connaissance, mais on a quand même quelques brasseurs
qui s'initient dans l'initiation.
Ouais, c'est même un petit peu plus. Je pense à Mamzelle qu'on n'a pas cité parce que, bon, on ne s'est pas encore rencontré, mais qui, vraiment, dans son concept de fabrication de bière, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec son papa et sa maman, mais pas avec le brasseur que je connais pas encore, mais c'est pas grave, ça va se faire, qui eux associent effectivement les bières aux plats proposés en cuisine. Dans une autre mesure, les 3B le font aussi un petit peu avec leur carte, hein, en proposant des types de bières avec plutôt pizza, etc. Plutôt une ambrée ou peut-être une blonde un peu plus costaud. Donc intéressant, oui bien sûr. Moi, j'ai pas la prétention de savoir encore bien faire tout ça, mais ça pourrait être marrant de peut-être demain avec la cuisine d'associer, de faire des ouais. Puis bon, attention, les goûts, les couleurs, encore une fois.
Alors, par contre, ouais, c'est vrai que tout ce qui est accord, non pas mets et vin, mais mets et bière, est en plein boom. Il y a une grosse littérature sur Internet. Il y a possibilité de faire des marinades à la bière, marinades de viande ou de poisson. Moi, je déglace systématiquement mes oignons aussi à la bière quand je cuisine.
Tiens, ça me fait penser une petite anecdote là. C'est vraiment à essayer. Hein. Si jamais vous avez pendant les fêtes une petite assiette d'huîtres, c'est d'essayer avec une porter ou une stout. C'est-à-dire, on va prendre le style connu, la Guinness par exemple, hein, de matcher la Guinness avec des huîtres. C'est dingue, c'est dingue. Non mais vraiment, hein, c'est...
À essayer quoi.
Ah ouais, vraiment.
Et alors justement, votre bière, la Rafale, avec quoi elle se mélangerait bien ? Avec quel plat ?
Bonne question.
On est sur une bière un peu légère, je verrais bien une petite assiette de crudité. Bon, déjà, c'est une bière de soif hein, qui est plus à proposer en apéro, je dirais, mais...
Petite salade de houblon.
Alors, c'est un peu amer, le houblon, directement, comme ça.
Petit poulet braisé.
Ouais, il y a sur des pas un curry, je dirais, pas quelque chose de plus léger qu'un curry ou qu'un gros steak frites, quoi.
Ouais, faut pas que le plat prenne le dessus, en fait, sur le goût, quoi. Et comme c'est une bière, comme tu dis, Christophe, légère, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Plutôt des plats un peu, voilà, ouais, pas léger, quoi.
Et la forme des verres. Oui, vas-y, Guillaume.
Ah non, mais à la forme des verres.
Des verres.
Ouh là là.
Alors, c'est quoi cette question?
La forme des verres, elle est importante aussi pour les itologues. Qu'est-ce qui serait idéal pour votre bière? Et est-ce qu'un puriste ou un biérologue peut ramener son propre verre pour goûter votre bière à la raffinerie?
Ouais, c'est une idée, mais c'est vrai.
La forme idéale?
Il y en a tellement.
Ouais, alors déjà chaque fabricant de bière va proposer son propre verre qui va sublimer un petit peu tous les arômes, la couleur, la mousse, tous les paramètres qui sont importants dans l'évaluation d'une bière. Et par la suite, déterminer un verre dédié à notre bière, là je pense que c'est encore un peu tôt.
C'est la prochaine étape quoi, c'est dans quelques temps.
C'est ça.
Pointu là, c'est déguste avec des formes de verre.
Attends, mais oui, mais il y a tout un art.
Moi j'ai un gobelet en plastique, mais c'est marqué la raffinerie. Je sais pas si ça...
Ça marche aussi quoi, mais bon, c'est vrai que si on veut
pour les puristes.
Déguster ça dans de bonnes conditions, oui, bien sûr, il y a des calices, il y a des verres un peu en tulipe, etc. Et c'est vrai, hein, on peut réfléchir. Hein,
comme pour le vin, en fait.
Comme pour le vin, oui, tout à fait.
Ouais, chaque type de bière va avoir son type de verre, un petit peu de prédilection. Et puis après, il y a des gens qui vont aimer des verres plus évasés, parce qu'ils vont plus s'intéresser à l'arôme. Il y a des gens qui vont préférer des verres plus ballons, parce que voilà... C'est selon les goûts de chacun.
Moi, je me suis jamais posé la question de dans quel verre j'allais boire la bière. Mais du coup, je me demande, vous goûtez, est-ce que vous goûtez la bière? À quel moment vous goûtez la bière? Est-ce que vous pouvez goûter pendant que vous brassez? Ou est-ce que c'est la surprise 2 mois après?
Quand tu fais un plat où tu goûtes avec le doigt au milieu.
Est-ce que tu peux mettre le doigt dans la sauce
Ouais, mais c'est marrant. Tu fais, France, tu fais l'analogie aussi un peu avec la cuisine. Et on est vraiment dans ça. Hein. Quand on vient brasser, on te suit une recette, en fait. On a une recette. Et effectivement, à plusieurs étapes, hein, d'ailleurs, même les gens qui viennent pour l'initiation, on leur fait goûter donc, le jus, hein, le jus qui n'est pas alcoolisé au stade, à proprement parler, tant qu'il n'y a pas eu la fermentation, le travail des levures, hein, donc c'est un jus sucré. Donc on goûte, effectivement, et là on est sur une boisson sucrée, maltée, hein, on le sent, hein, il y a un fort goût de malt. Un petit peu, on pourrait associer ça un petit peu ce qu'on retrouve en grande surface, toutes ces boissons maltées, là, le Dynamalt ou je sais pas quoi, là, je sais pas bien là. Donc on est mais avec un jus très riche en sucre, et après ce jus, nous on arrête là au niveau du boulot, hein, j'ai envie de dire les brasseurs. Hein. On fait un jus sucré, on met ça dans le fermenteur, on met des levures, et après c'est elle qui bosse. Elle transforme le sucre en fait en alcool et en CO2.
Et le jus, du coup, avant qu'il soit fermenté, il est là, le jus malté, il est bon.
On le goûte, je t'invite à venir tremper tes lèvres avec un petit verre la prochaine fois, bien sûr. Ouais.
Ouais. Donc on pourrait faire une sorte de bière, un jus de houblon sans alcool.
Oui, oui, bien sûr, on pourrait s'arrêter là, mais c'est pas drôle.
Ouais, mais il faut passer aux enfants.
On peut.
Et alors pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent waouh, c'est génial, j'ai envie d'apprendre, bientôt vous allez faire des initiations?
Oui, alors je rappelle qu'on est quand même encore sur un mode associatif, hein, donc évidemment
pas une formation, mais voilà,
c'est une initiation. Donc là avec Christophe, on réfléchit un petit peu déjà à caler nos brassins, l'idée étant d'en faire, hein, parce que les besoins aussi sont ceux de la raffinerie, hein, on va pas brasser plus qu'il est nécessaire. Mais on est sur 4 brassins par mois, donc un par semaine. Là, le prochain, on est mardi, on le fait jeudi, hein, par exemple. Donc j'essaierai de poster ce soir, parce que bon, c'est déjà un petit peu tard, hein, malheureusement. Mais voilà, et puis bon, on avance aussi en ce moment en fonction du temps, quoi. Hein, parce que le dernier brassin, on a fini sous la flotte. Donc, pas très rigolo, ça, par contre. Hein. C'est sympa, parce qu'on le fait en extérieur, c'est cool et tout, mais faut que le temps s'y prête. Après, le suivant, faudra voir. Ça sera peut-être un mardi, on va voir. Donc on le saura 4-5 jours avant. Mais j'essaierai de poster sur le post microbrasserie. Alors peut-être pas sur le Facebook, parce que là, l'idée, c'est aussi c'est d'y associer surtout les raffineurs, les membres de l'asso, quoi, en fait. Hein. Demain, peut-être, oui, on ouvrira sur l'extérieur, mais bon, aujourd'hui, on reste en petit format. Nous aussi, hein, on est en apprentissage encore, hein, 8e brassin. On est encore en train de faire évoluer quelques paramètres à chaque fois. On les note, comme ça, on regarde un petit peu l'incidence que ça peut avoir aussi sur ce qu'on va servir, hein, évidemment, à la buvette. On rajoute de l'eau, on en enlève, etc. On fait chauffer un peu plus, un peu moins. Tout ça, ce sont des paramètres importants, hein, dans la fabrication. Donc, et qui modifient, bon, alors pas de manière complète, bien sûr, le produit, mais qui peut avoir quand même des petites...
Donc on peut faire des petits brassins spéciaux. Mais si je viens au 9e brassin,
ouais.
Combien de temps après je peux goûter, je peux la goûter?
Ah, voilà. Christophe.
Ah, ça, c'est le domaine de...
Guillaume, il a envie de goûter.
Je vois ça.
Elle est où, la bière de dégustation, là?
Ouais, on est déçus. On pensait qu'on arrivait une petite...
Nous, on y a cru, hein.
Ouais. Elle est encore au frigo.
On y reste une bouteille.
Ah. Alors, quand on brasse, on compte une semaine de fermentation pour que les levures, déjà, dans un premier temps, se multiplient. Ensuite, qu'elles transforment le sucre en alcool. Et on a une phase de refermentation, qu'elle soit en fût ou en bouteille, pour le coup, où on rajoute un petit peu de sucre pour réactiver les levures, et c'est là qu'elles vont créer le CO2, donc le côté pétillant et mousse de la bière. Au global, on compte sur 3 semaines, entre le jour de brassage et le jour où on va la servir.
Ok, donc il faut... Il faut attendre.
Ouais, il faut un peu de patience.
Un peu de patience. Ouais. Ah, ça, c'est la, comment on appelle ça, là, une des vertus du brasseur, hein, la patience.
En tout cas, une vertu qui travaille.
Ouais. C'est clair.
En tout cas, vous êtes autodidacte, et donc du coup, ça montre que tout le monde peut, avec de la volonté et beaucoup de motivation, monter sa propre micro-brasserie.
Oui, et puis c'est voilà, hein, dans l'esprit, on a eu quand même la visite de 2-3 gens qui tiennent un peu leur sujet, et on apprend encore beaucoup grâce à eux. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve aussi, hein, pour reprendre un peu les grandes valeurs un petit peu autour de ce merveilleux liquide, c'est le partage. Hein, on est beaucoup dans ça. On a beau être professionnel, amateur, etc. On a beaucoup à échanger, on a beaucoup à apprendre, et puis on a un jouet là qui est sympa comme tout, quoi. Et justement, qui nous permet aussi de
jouer.
Bah voilà,
un jouet, ouais. De jouer.
Ouais.
De jouer à la bière.
Ouais.
Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a un sujet que vous vouliez aborder? Ou est-ce que la prochaine étape pour les personnes qui nous écoutent, c'est de venir, donc, quand on est ouvert un soir, et de venir la goûter, tout simplement? La Rafale, donc, elle s'appelle.
Ouais, c'est un bon début, hein, je crois. C'est un bon début.
Ouais, c'est un bon début. Ensuite, pour ceux qui veulent contribuer au projet, ils sont évidemment les bienvenus.
Comment on fait? On va sur le site de la raffinerie. Comment on fait pour contribuer?
Ouais, laraffinerie.re, et puis tout est indiqué. Il y a des liens pour le crowdfunding. Et à la suite, en priorité, ceux qui ont participé au financement. Puis, dans un second temps, tout un chacun pourra venir participer à une des initiations.
Ok.
Mais en tout cas, on a plein de projets en tête. Hein.
Mais oui, tu m'en avais parlé. Oui, tu veux faire des événements brassicoles.
Moi, j'aimerais bien retrouver nos copains. On nous fait des salons du vin, c'est super.
Ouais, voilà. Avec des crachoirs pour bière, pour goûter
les
bières.
Mais pas, voilà.
Non, dans la bière, on recrache pas.
avec des verres en forme de triangle, d'ovale.
De girafe.
Des girafes, ouais. Toutes formes de verres, tu seras content de France.
Ouais.
Chacun ramène son verre. Après, on fait un atelier de fabrication de verres.
Ouais.
Ouais.
Pas mal.
Et des quoi? Alors, c'est quoi des ateliers
brassico-co? Un événement? Non, mais c'est toi qui veux faire le salon de la bière.
Non, ça serait
bien grand mot, mais
pouvoir inviter à venir partager les brasseurs amateurs, hein, puisque c'est un peu l'esprit du lieu aussi, hein, donc pouvoir se retrouver, de pouvoir faire goûter aussi, pourquoi pas, leur production. échanger un petit peu entre nous, voilà, passer une journée agréable sous le beau soleil de Savannah, quoi, à la raffinerie. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Thierry, Christophe.
Merci.
Avec plaisir.
Je propose qu'on fasse une respiration musicale avec Christine Salem. Ah oui, oh, Christine Salem avec son groupe. C'est le titre Cabaret. Et puis juste après, on a Manon qui vient nous faire l'agenda du mois de mars de la raffinerie.
C'est parti.
C'était donc Christine Salem et son groupe avec le titre Cabaret. On est toujours dans l'émission Micromonde et j'ai le plaisir de recevoir Manon pour la toute première fois. Je suis ravie que tu nous rejoignes derrière les micros.
Bienvenue Manon.
Merci.
Bienvenue Manon.
Salut.
Et aujourd'hui, du coup, c'est agenda de la raffinerie, mais pas que. De quoi vas-tu nous parler, Manon ?
Eh bien, oui, donc le but, c'est quand même de parler de qu'est-ce qu'on fait au mois de mars.
Qu'est-ce qui se
passe ? Mais en écrivant un peu ce petit truc, hier, je me suis dit, mais tiens, on est le 28 février. Et c'est un jour un peu spécial, parce que c'est la fin du couvre-feu qui a été instauré depuis de longues semaines, qui a été enfin levé. Et en plus, il emporte avec lui de nombreuses autres mesures sanitaires.
Ouais ! Applause.
Ouais !
T'as vu, je suis. Hein.
Et vous savez ce que ça veut dire ? Eh ben qu'on peut enfin se retrouver pour danser, chanter, admirer des spectacles sans être masqué.
Hop, je crois qu'on peut pas encore danser. Hein.
On peut pas se mettre nu sur la table.
Pas de concert debout. On se calme. Maintenant, on se calme là. Attention.
Bon, on peut aussi faire partie du spectacle en étant masqué. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Carnaval et on est en pleine saison. Et du coup, j'ai pensé à cette petite ville du Schnorr, pas loin de Lille. Alors non, je ne parle pas de Bras-Panon, mais de la fameuse ville de Dunkerque, juste à côté de Lille où j'ai fait mes études.
Ah.
Alors, pardon, c'était une mouche.
Ceci était une mouche.
Alors c'est un peu loin, Dunkerque, Lille, tout ça. Il y a quelques degrés et une humidité bien différente, certes.
Chouïa.
Un chouïa. Et là-bas, le carnaval, c'est un événement qui est presque sacré, quoi.
C'est une religion.
Il débute officiellement aujourd'hui, mardi 1er mars, parce que c'est mardi gras. Mais le carnaval de Dunkerque, il commence mi-février, quoi. Et en fait, mardi gras, à la base, ça se célèbre 47 jours avant Pâques. Alors, j'imagine qu'on célèbre par une folie de débauche le fait que 47 jours plus tard, on mangera du chocolat.
Wouh !
En tout cas, les carnavaleux de Dunkerque, ils sont assez réputés pour défiler en bande sur de joyeux tintamarres qui donnent un chahut plus ou moins organisé. J'ai eu l'occasion de vivre le fameux week-end des Trois Joyeuses qui marque vraiment le début du marathon du carnaval de Dunkerque. Mais bon, il y a des secrets que seuls les Dunkerquois connaissent, quoi. Enfin, c'est
les Dunkerquois et les Dunkerquoises.
Et Dunkerquoises. C'est un peu à l'image d'un oreille qui arrive à La Réunion et qui souhaite directement manger une bonne cuillère de pâte à piment dans son curry sous 30 degrés et après un chantier participatif à la raffinerie.
Comment cette anecdote t'est venue en tête ?
Je sais pas, ça sent pas du tout le vécu. Alors ce que je dirais à cette personne, c'est non mon petit, parce que de un, ça poque de ouf, et de deux, ti lampe, comme on dit par ici, on n'est pas tous aussi endurants. Les carnavaleux, ils enfilent du coup leurs plus beaux costumes. Généralement, c'est des barésies, des bijoux, des fossiles, maquillage, chapeau à fleurs, perruques. Et c'est parti. Et du coup, il y a de nombreux bals qui ont lieu dans tous les alentours de Dunkerque, sur toute la côte. Et clairement, là-bas, ils le fêtent pendant un bon mois. Il y a des choses, pour y être allé, il y a une chose qui m'a marquée. C'est une tradition. Alors, il y en a plein de traditions. Il y a les zotch. Les autres, c'est des bisous sur la bouche par des inconnus que tu croises comme ça dans la rue.
Ah, c'est sympa.
Ouais.
C'est Dunkerque.
À Dunkerque. Voilà, il y a les chansons paillardes, il y a la bière qui coule à flot, il y a de la joie qui en émane, et puis il y a le lancer de harangue.
Alors, c'est un lancer de harangue.
Lancer de harangue.
On lance des harangues.
Il y a la bande, donc le cortège, ouais, qui fait toujours un arrêt devant l'hôtel de ville. On y voit le maire et ses conseillers municipaux qui, du haut de l'hôtel de ville, balancent des harengs plastifiés sur les gens, quoi. Comme ça, quoi.
Ah, c'est pas des vrais harengs, quand même.
Si.
Ah, c'est des vrais.
Si.
Ils mettent quand même un truc autour.
Ils ont du film plastique, quoi.
Et pourquoi ?
Pour protéger, quand même. Je me suis quand même questionnée.
Faire mal aux harengs.
Parce que je me suis dit, j'avais quand même une vision... tu vois, une vision un peu descendante du maire qui balance du hareng comme ça sur le peuple, sur ma peuple. Quoi.
Sur le peuple.
Tenez, peuple, prenez du hareng.
Du hareng.
Des bisous.
Du coup, c'est Claude Prouvoyeur, un ancien maire, qui aurait confié le secret dans la Voix du Nord en disant qu'au cours d'une réunion à 7 ou 8, on s'est dit... À Ypres, on lance des chats. À Comines, on lance des louches. Et à Dunkerque, eh bien, ce sera des harengs. C'est la saison.
On lance des chats, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Oui, effectivement, entre les harengs et les chats, je ne sais pas trop quoi dire. Bon, et du coup...
On va faire venir des assos de protection animale dans cette émission.
Et ben, qu'est-ce qui nous attend en ce beau mois de mars?
Ouais.
Et bien, à la raffinerie, on
alors, débute ce, qu'on va lancer, alors
ce mercredi 2 mars en beauté, parce que justement, on vous a prévu un concours de lancer de chatons.
Oh, oh lancer de chatons, attention,
non, plutôt,
je rigole pas avec ça, moi. Ouais, voilà.
Je rigole, ici on maltraite personne, pas même nos employés, parce que bah, de toute façon, il n'y en a pas.
Mets un petit
Tu peux la refaire, s'il te plaît. Ouais.
J'ai dit, ici on ne maltraite personne, même pas nos employés, parce que bah, de toute façon, on n'en a pas.
Faudra la ressortir, celle-là.
Mais bon, je me suis dit qu'on pourrait pourquoi pas organiser un lancer de graines. Faudrait en parler à la team
Lançons
jardin.
Lançons des graines. Plantons des graines.
Un lancer de houblon, un lancer de
voilà, on a de quoi faire quand même. Bon, allez, un peu de sérieux là. Donc, demain, mercredi 2, on ouvre le bal avec une super énergie parce qu'on retrouve notre marché pays. C'est un marché de producteurs locaux avec de super bons produits. Et ce sera l'occasion de venir visiter la raffinerie à 16h si vous voulez savoir ce que les hippies de la raffinerie font ici. Et à 18h30, c'est Mescla qui va nous régaler avec son super DJ set et ses paillettes pour ensoleiller votre soirée.
Zbleu.
Big up Mescla si tu nous entends.
Si tu nous écoutes.
Ouais. Qui est cette Mescla? Est-ce qu'on peut en dire plus?
DJ Mesclin pour le marché pays.
DJ Mesclin.
Oui. On aurait dû l'inviter à l'émission d'ailleurs, tiens.
Ah merde, c'est pas le bon. Bref.
Et puis on boira un petit coup de rafale, hein, brassé sur place et avec amour. Et ensuite on ira voir Sun qui nous prépare un super merveilleux plat traditionnel coréen. Voilà, mercredi 9 mars, venez jeter un coup d'œil à la galerie Conteneur où on organise un petit vernissage avec Air du Temps et Johanna Grégoire. Vendredi 11 mars, on organise un transatonique. Mais qu'est-ce que c'est un transatonique, Guillaume?
Transatronique, il manque pas un petit
transatronique. Parce que c'est tonique aussi. Mais,
c'est aussi tout à fait.
C'est aussi transat.
C'est aussi transat et c'est aussi électronique.
Ouais.
Transatronique. Alors bah, l'idée, c'est qu'on va sortir plein de transats. On va tous se mettre bien mi-allongé, mi-assis dans le transat. Et avec Arthur qui va venir mixer de la musique qui va bien sur des transats. De la musique de transat, j'ai envie de dire.
Ouais,
et voilà, ça va être bien, on va se mettre bien là-dessus.
On va se mettre niab.
Je ne sais pas si c'est accepté, ça.
Ensuite, mercredi 16, ramenez vos jeux, c'est l'occasion d'échanger les derniers jeux de société que vous avez découverts pendant le dernier cyclone. Ouais. Ça va être bien, si vous n'en avez pas trop marre. Ensuite, le vendredi 18, c'est la fête du court-métrage.
Wouh. Alors maintenant, la fête du court-métrage, c'est
alors, la fête du court-métrage, je peux vous en parler. Est-ce qu'il y a un petit cinéma en plein air, ça tente quelqu'un? On va célébrer la reprise de notre programmation de cinéma en plein air. Et du coup, on commence avec la fête du court. On vous a préparé une super sélection, dont des courts-métrages issus de La Réunion. Et franchement, je crois que je suis la seule à les avoir vus, tous. Et ben, ils sont vraiment chouettes. Et si ça ne vous plaît pas, et ben, Christophe vous paye sa tournée.
Voilà, pour un coup de rafale. Mais c'est top, il y aura une sélection locale.
Il y aura une sélection locale et en plus, on réserve une petite surprise d'un invité d'honneur.
Ouais, exactement.
Voilà, je n'en dirai pas plus.
Ouais, donc à peu près 2h30 de court-métrage.
C'est ça,
avec
ça
une
commence
petite
à
pause.
18h30.
Ouais, de la rafale et une restauration sur place.
Voilà.
Et c'est le lancement de la reprise du cinéma, comme tu disais. Et on va bientôt aussi refaire toute la programmation du cinéma en plein air. Donc ça sera aussi l'occasion de se rencarder là-dessus et de pouvoir participer à la programmation de tous les mois qui arrivent.
Ouais.
Pour celles et ceux qui nous écoutent peut-être, les gens ils peuvent nous contacter.
C'est le moment, il faut venir.
Pour les fois d'après, en gros, voilà, si tu as un court-métrage et que tu veux le diffuser, tu peux nous contacter maintenant pour plus tard.
Et venir à La Réunion aussi, c'est important.
Oui, très important.
On fasse tous ensemble une super programmation.
Ouais.
Voilà pour le vendredi 18. Ensuite, le vendredi 25, c'est le repas des adhérents. Donc une bonne bouffe entre adhérents, quoi. Je pense que c'est assez parlant. En gros, chacun ramène un bon petit plat qu'on partage ensemble et tout. Et...
voilà, convivialité.
Et c'est cool, on fait connaissance.
Tout ça.
Et le lendemain, on ne s'arrête pas parce qu'il y a le nouvel an coréen. Alors, avec pas mal de retard et moi qui suis jamais à l'heure avec mon quart d'heure savoyarde, je dis souvent que l'heure, de toute façon, c'est une invention capitaliste. et que le temps est venu à la décroissance. Voilà.
Yeah. Et elle nous sort des punchlines. Ouais, là, ouais. Il va falloir les enregistrer.
J'étais inspirée. Bref, l'important, c'est que ce soit là quand même. Donc venez célébrer la culture coréenne à la raffinerie.
Il y avait Sun qui était là il n'y a pas longtemps. On aurait pu la tirer par le col et dire viens.
On fera bien un petit podcast entier là-dessus où elle nous parlera de tout ça.
Oui.
Donc c'est un programme assez éclectique avec des ateliers l'après-midi. Du coup, je ne vais pas en dire trop si Sun, elle vous en reparle plus tard. Et le soir, on partage encore des bons petits plats préparés avec amour, toujours et sur place.
Amour toujours.
Et on terminera le mois avec mercredi 30 un café culture pour parler des arts visuels. Donc c'est l'occasion de se retrouver, de se rencontrer, d'échanger autour d'un bon petit verre, parler des projets, des outils, des tips liés à la création d'arts visuels.
En gros, les gens qui font des arts visuels peuvent venir.
Voilà.
C'est table ronde, en gros, mais sous forme d'apéro. Ouais, table ronde, ça fait un peu trop sérieux, mais en gros, on vient, on échange, on papote, on développe notre réseau.
On se rencontre.
Et on boit des coups.
Autour d'une rafale. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Et on peut faire en avant-première, annoncer que juste après le 1er avril, il y a le café Microforêt. Ouais, avec l'inauguration de la Microforêt, une projection d'un film... l'inauguration d'un nouveau mur de street art.
Yes.
À suivre. Plein de pour le
c'est déjà qui c'est l'artiste ou pas?
Ah non, c'est en avril là.
C'est trop loin. Ne nous enflammons pas. Programmation du mois de mars.
Bon bah sacrée programmation, merci.
Ouais,
Manon.
Ça
rigole pas la reprise des événements à la raffinerie.
Et toi Manon, donc t'es arrivée il y a un mois.
Un mois pile poil. J'ai commencé ici, donc en service civique. Et sinon, je suis arrivée à La Réunion le 24 janvier, donc un mois, une semaine.
Bah, j'ai envie de te dire, bravo.
Bravo Manon, super, ben, merci beaucoup, je suis ravie pour cette chronique. Je pense que ça mérite un podcast à lui-même. Et aujourd'hui, je t'ai trouvée d'humeur très blagueuse.
Alors attends un petit peu celui du mois d'avril. Hein.
Mais en dehors de ta chronique agenda, tout à l'heure, toute la journée, t'as pas arrêté de nous raconter plein de blagounettes. Tu nous en sors une petite dernière pour conclure l'émission ou quoi?
Allez, attends, une que je vous ai pas faite. Pourquoi les canards sont-ils toujours à l'heure? Vu qu'on parlait de mon retard, voilà.
Alors, les canards, ils sont toujours à l'heure parce que...
C'est parce qu'ils sortent du coin.
Parce qu'ils sont toujours dans les temps.
Ah ! Attends.
Allez, une deuxième.
Dans les temps de Saint-Paul.
Comment est-ce qu'on appelle un chat qui va dans l'espace ? Un satellite.
Bon, je crois qu'on a trouvé un nouveau podcast.
Ça, c'est ça, en fait, ouais, c'est clair. La meuf, elle va passer une heure à raconter des blagues avec des jeux de mots.
Bon, bah, chat...
merci pour...
Sachant la fin,
on se retrouve mercredi pour le lancer de chaton.
Ouais.
Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, Manon, on te retrouvera très vite. Pour un agenda et pour un autre, on réfléchira. Moi, je te trouve très à l'aise. Hein, pour quelqu'un qui disait non au début, c'est ça qui est bon. En tout cas, nous, Micromonde, on se retrouve le 5 avril. On va parler panier de légumes parce qu'on recevra les bienveillants AMAP.
Eh oui.
Eh oui, c'est pas Guillaume.
Panier de légumes, circuit court. La terre, les mains dans la terre.
Tout ça.
La joie, la bonne humeur.
Voilà. Eh ben merci Manon, merci Guillaume, merci Thierry et Christophe qui sont venus nous présenter à la microbrasserie. Et puis nous, donc, on se retrouve dans un mois pour Micromonde.